France Inter, franceinter.com.
Ordre du commandement du quartier général des régiments. Tous les prisonniers de guerre doivent être exécutés. État-major de l'armée japonaise à Nankin, 13 décembre 1937. Ans d'histoire. En décembre 1937, sur les écrans de toutes les salles de cinéma du Japon, les actualités projetaient les images de la prise de Nankin. On y voyait l'armée japonaise du général Matsui entrer dans ce qui était alors la capitale de la Chine. Mais on n'y voyait pas les cadavres des 7000 soldats chinois exécutés le jour même sur ordre du commandement nippon. Ignorant toutes les lois de la guerre, le général Matsui n'avait pas voulu s'embarrasser de prisonniers. C'était le début d'un carnage qui allait durer 6 semaines. Le massacre le plus meurtrier d'une guerre qui, pendant 8 ans, a opposé le Japon et la Chine entre 1937 et 1945. Une guerre oubliée, sauf en Chine, où l'on se souvient encore des crimes commis par l'armée japonaise il y a 70 ans. France Inter, Philippe Habitboul, le 10 avril 2005.
France Inter. En Chine, les manifestations anti-japonaises se multiplient. Des étudiants nippons agressés à Shanghai, dans des restaurants, des milliers de manifestants dans le sud de la Chine, au moins 20 000, pour dénoncer le révisionnisme du Japon accusé de minimiser dans ses livres d'histoire les atrocités perpétrées par les armées nippones lors des guerres de colonisation en Chine dans les années 30. À l'évidence, la reprise en main par les autorités chinoises n'a pas encore eu lieu, Eric Meyer.
Tandis que Nobutaka Matsumura, ministre des Affaires étrangères nippon, convoquait l'ambassadeur chinois, Pékin priait ce dimanche l'opinion chinoise de se ressaisir. Les deux pays réagissaient aux manifestations anti-nippones qui ont continué aujourd'hui à Shenzhen, où un supermarché japonais a été attaqué, et à Canton, où 15 000 jeunes ont brûlé des drapeaux du soleil levant. Tout cela pour protester contre le négationnisme des Japonais face aux crimes commis en Chine par leurs ancêtres 60 ans plus tôt. Eric Meyer, Pékin, France Inter.
Michael Prazan, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient de l'entendre, il n'y a pas qu'en Europe où le passé ne passe pas. Hein. C'est aussi le cas en Asie à cause de crimes de guerre commis par l'armée japonaise entre 1937 et 1945 et dont le plus meurtrier s'est produit en Chine il y a exactement 70 ans, le massacre de Nankin auquel vous venez de consacrer un livre publié chez De Noël. Alors, ce n'était pas le seul crime de guerre des Japonais pendant cette très longue guerre puisqu'elle a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Mais c'était peut-être le plus impressionnant, Michael Prazan. Pourquoi ? Le plus meurtrier ?
Il est certainement le plus meurtrier. Il est aussi le symbole de la guerre sino-japonaise, cette très longue guerre, effectivement, qui a opposé la Chine au Japon. Vous l'avez dit, entre 37 et 45. Et on peut même dire qu'il y avait déjà une première guerre sino-japonaise qui a duré tout le début du siècle. Le massacre de Nankin fait figure pour les Chinois du symbole de la violence, de la brutalité, de la barbarie de cette armée japonaise qui a effectivement commis ce que dit Jean-Louis Margolin, ce qu'écrit Jean-Louis Margolin, c'est cette longue traînée de sang durant toutes ces années d'affrontement terrible entre les deux pays.
Les deux pays sont en désaccord sur le nombre de morts. En tout cas, les Chinois, on l'a entendu aujourd'hui encore, n'aiment pas ce qu'ils appellent le révisionnisme des Japonais qui ont tendance soit à nier ces massacres, soit à dire que c'était des bavures, entre guillemets, soit à minimiser les chiffres. Or là, justement, les fourchettes dans les chiffres sont très variables selon les sources. On dit entre 100 et 300 000 morts.
Alors c'est évidemment la question la plus problématique à la fois d'un point de vue mémoriel mais aussi d'un point de vue purement historique et c'est à la fois la raison, cette imprécision, c'est la raison pour laquelle le Japon a tendance ou disons des groupes d'influence japonais ont tendance à minimiser de plus en plus le chiffre du fait de cette imprécision et aussi, de l'autre côté, la Chine qui a de plus en plus tendance, elle, à grossir le chiffre, encore une fois, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les Japonais ont détruit les documents relatifs au massacre avant l'entrée au Japon de l'armée américaine. Ensuite, parce qu'il y a eu évidemment des imprécisions en ce qui concerne les témoignages et parfois certaines exécutions très importantes se recoupent avec d'autres et on ne sait trop si ce sont les mêmes ou si elles ont eu lieu soit le même jour, soit à quelques heures même de différence. Bon, il y a toute une imprécision sur le
disons,
nombre.
Disons, pour la fourchette basse, au minimum, combien de morts?
Écoutez, on s'accorde en fait à accréditer deux chiffres et qui sont deux chiffres relativement sérieux. Le premier, c'est le chiffre exposé lors du tribunal pour l'Extrême-Orient qui a eu lieu en 1946 à Tokyo et qui, en gros, donne 200 ou 250, 180 et 200 000 morts, à peu près. Quant à savoir, effectivement, qu'est-ce qui est inclus dans ce chiffre, c'est encore un autre problème, mais on y reviendra peut-être. Et puis, il y a le chiffre de cet autre tribunal purement chinois, de 1945, encore sous le régime de Chiang Kai-shek, qui, lui, donne le chiffre de 300 000 morts. Donc on a une fourchette, en gros, de 100 000 morts de différence, ce qui n'est pas rien.
Alors pour comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est tellement effroyable qu'on a du mal à le comprendre, il faut, comme vous le faites dans votre livre, Michael Prasant, remonter, rappeler le contexte, et d'abord le contexte de cette guerre. Elle se déclenche avec comme prétexte un incident sur un pont tout près de Pékin, le pont Marco Polo, un régiment japonais se fait tirer dessus, et puis un soldat japonais a disparu, et ça sert de prétexte au Japon, pour déclencher la guerre. Je dis bien déclencher et non pas déclarer. Parce qu'en fait, pour le Japon, la guerre, elle n'a jamais porté ce nom. C'était un incident, ce qui a de l'importance pour l'avenir.
Absolument. Alors, on est au terme d'une série d'incidents. Il y a d'abord l'incident du pont Mukden quelques années auparavant, d'une série d'incidents et d'échauffourées, parce que, évidemment, le Japon est déjà présent en Chine et occupe un certain nombre de territoires.
La Manchourie, oui.
Et aussi à Pékin, puisque c'est dans les environs de Pékin, sur le pont Marco Polo, qu'a lieu cet incident. Cet incident, c'est quoi? C'est une broutille. C'est un soldat à l'entraînement sur le pont Marco Polo, donc près de Pékin, qui manque à l'appel tout simplement. Et une rumeur se répand, il aurait été enlevé par des partisans chinois et donc il y a une volonté de répressive. Sauf que, évidemment, ce n'était pas vrai en fait. Ce soldat qui avait disparu revient le soir, on s'en garde bien d'ailleurs à l'époque de le dire. Il était même probablement allé voir une prostituée dans un bordel de la région. Donc c'était vrai, évidemment un incident mineur. Mais il y a d'autres incidents moins connus qui vont suivre cela. Qui sont des manœuvres d'espionnage, on peut dire, certainement de la Russie, de Staline, de l'époque, qui tient aussi à ce que si il y a un conflit armé, parce que personne n'est dupe, on sait qu'il aura lieu, la Chine le sait, le Japon aussi, eh bien, il préfère que ça soit assez loin, sa frontière avec la Mandchourie, et donc plutôt à Shanghai.
Alors donc, l'armée japonaise envahit la Chine, s'empare de Pékin, qui est tout à fait à proximité de chez elle, très facilement, il n'y a pas de résistance. D'ailleurs, ce qui est important, c'est que Pékin n'est pas la capitale à l'époque. La capitale, c'est justement Nankin.
C'est Nankin, parce que Chiang Kai-shek a été obligé de déplacer la capitale à Nankin, parce que lui-même, à ce moment-là, jusqu'alors plutôt, était aux prises avec une guerre compliquée, une guerre civile contre ce qu'on appelait les chefs de guerre, enfin, qui étaient des zones plus ou moins tribales, qui étaient administrées par des clans. Donc il y avait une guerre assez longue contre ces chefs de guerre. Et il a été obligé de déplacer sa capitale à Nankin, mais aussi il faut dire que Nankin a été l'une des premières capitales de la Chine. Donc la capitale se déplaçait, c'était à Pékin, et à ce moment-là c'était à Nankin, il n'y a pas non plus de...
Donc l'armée japonaise prend Pékin, puis arrive le 13 août 1937 devant Shanghai, défendu par le général Chiang Kai-shek.
À Shanghai, un débarquement de troupes japonaises sous le tir des batteries chinoises dominant le Yangtze. Les soldats du Mikado doivent livrer des combats acharnés aux fantassins chinois retranchés sur les rives du fleuve. Le général Chiang Kai-shek passe en revue des divisions de l'armée régulière. La ville, qui compte plus de 3 millions d'habitants, est soumise au bombardement de l'aviation et de la flotte japonaise. Les quartiers chinois constituent l'objectif principal des forces nippones. Leur population cherche refuge dans la concession internationale.
Et c'était l'attaque des Japonais sur Shanghai qui va résister pendant 2 mois. Alors là aussi, ça explique ce qui va suivre à Nankin. Les Japonais sont absolument suffoqués par la résistance des Chinois qui vont tenir 2 mois, Michael Prazan.
Oui, ils partent à Shanghai la fleur au fusil, pensant évidemment qu'il n'y aura aucune résistance. D'ailleurs, ils ont envahi très facilement le reste de la Chine, enfin... Et donc, ils sont effectivement très surpris par la résistance chinoise et les affrontements. Alors, la ville est bombardée. D'ailleurs, Nankin subit à ce moment-là aussi, au mois d'août, un premier bombardement. La ville est bombardée et puis on se bat au corps à corps dans les ruines durant 2-3 mois presque. Et c'est d'une violence inouïe. Et sans effectivement l'apport d'un contingent venu directement de Tokyo, de cette 10e armée qui vient prêter main forte à des Japonais qui sont en très très grande difficulté, même en passe de perdre la bataille, eh bien cette bataille, ils ne l'auraient pas gagnée. Donc ça a été un camouflet terrible pour le Japon. Et on constate aussi que dans les dernières semaines de ce conflit, dans les ruines fumantes de Shanghai, eh bien, les premiers actes de barbarie commencent, mais dans les deux camps. Et la violence qui s'exacerbe au fil des combats et au fil des semaines va galvaniser complètement cette armée japonaise monstrueuse, hein, de 200 000 hommes, comme ça, qui va ensuite se déverser sur la capitale Nankin.
Alors justement, qui est-ce qui part à Nankin? C'est ce fameux général Matsui, qui est déjà assez âgé, qui prend l'initiative, sans ordre de Tokyo, d'aller vers Nankin. Rappelons-le, c'est donc la capitale de la Chine. Et déjà sur cette route, eh bien, commencent les premiers massacres en direction entre Shanghai et Nankin.
L'état-major n'est absolument pas sûr de vouloir envahir l'ensemble de la Chine. Et d'ailleurs, il n'y est pas préparé. Enfin, rien n'a été fait pour approvisionner cette armée japonaise. Bref, il est très clair que l'état-major n'avait pas décidé volontairement d'envahir Nankin. C'est effectivement ce militaire de carrière, Iwane Matsui, qui prend seule l'initiative avec son armée et le 10e contingent dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était venu pour prêter main forte au contingent nippon, d'organiser cette marche sur Nankin. Et puis alors du coup l'état-major va suivre, mais un peu comme ça, pressé par l'initiative de ce général téméraire, et envoie in extremis des renforts qui font un débarquement, ou plutôt 2 débarquements de très grande ampleur sur la baie de Hangzhou.
Alors déjà, sachant qu'il y a des massacres sur la route, beaucoup d'habitants de Nankin quittent la ville, une bonne partie de l'armée chinoise qui la défend aussi, et c'est dans une ville presque sans défense que Matsui entrait le 13 décembre 1937, il y a exactement 70 ans, jour pour jour.
Victoire éclatante de la prise de Nankin. Nankin, fief de la lutte anti-japonaise, est tombé. Juste avant l'attaque historique, le beau temps régnait. L'avancée de nos troupes s'est accélérée. Chacun de nos valeureux régiments veut avoir l'honneur d'être le premier à rentrer dans Nankin.
C'était les fameux banzai des Japonais entrant dans Nankin le 13 décembre 1937. Et tout de suite, le jour même, commencent les premiers massacres qui visent les prisonniers de guerre. Hein. En principe, leur statut fait qu'ils sont prisonniers, donc qu'ils n'ont pas à être maltraités. Ils sont exécutés tout de suite, sur ordre d'ailleurs.
Pourquoi ? D'abord, il faut rappeler 2 choses. La première, c'est que le Japon n'a pas ratifié les conventions internationales sur les prisonniers de guerre, et notamment les fameuses conventions de Genève. Donc ils ne se sont pas tenus de respecter des accords qu'il n'a pas signés. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, la guerre n'a pas été déclarée. Dès lors qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de prisonniers de guerre. Enfin, en troisième lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'a été prévu à la fois pour les militaires japonais, mais encore moins pour les militaires chinois, c'est-à-dire l'hébergement, la nourriture, il n'y a rien. Que fait-on de cette masse ?
On s'en débarrasse.
Voilà.
Et d'une manière affreuse, parce que vraiment, on les voit en photo, vous en parlez, il y a beaucoup de témoignages, ils sont fusillés, puis faute de balles, on les tue à coups de baïonnette, on les décapite même. Vous parlez d'un concours entre des soldats japonais, le concours des 100 têtes coupées, c'est vraiment effarant, et tout ça en public.
Oui, alors c'est aussi l'instrument propagandiste. Bon, on comprend mal cette barbarie, au sabre de combat, à la baïonnette. Enfin, c'est vraiment sidérant. Les photos, les témoignages qui sont pléthoriques qu'on a là-dessus sont tout à fait effrayants. Il s'agissait pour l'état-major nationaliste. On est dans un Japon qui est de plus en plus nationaliste, qui devient une dictature nationaliste, au même titre que les grands fascismes européens, si vous voulez. Et pour renouer avec l'héroïsme guerrier, on ressort le Hagukare, le Bushido, c'est-à-dire toute cette mythologie guerrière où le sabre est quasiment divinisé et où son instrument divinise celui qui s'en sert. Et toute la propagande japonaise est faite là-dessus. C'est-à-dire que le concours des 100 têtes coupées laisse entendre dans le Tokyo Nichinichi Shimbun de l'époque, qui est aujourd'hui le Mainichi Shimbun, laisse entendre que ce sont des soldats qui se battent au cœur du combat, le sabre à la main, et qui décapitent leurs ennemis dans le chaos de la bataille. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout.
Alors, autre victime des massacres, c'était des civils, des hommes, hein, susceptibles d'avoir porté les armes, qu'on soupçonne d'être des déserteurs, qu'on va chercher également pour les tuer, et qu'on va chercher jusque, dans, vous en parlez longuement, dans cette espèce de zone spéciale ou de zone de sécurité qui a été créée par les étrangers présents à Nankin pour protéger la population. Et là, ils s'en foutent complètement. Les Japonais pénètrent dans cette zone de sécurité pour traquer des gens qui pouvaient être des soldats déserteurs.
Oui, donc quelques Occidentaux restent ou décident de rester, alors que toute la ville a été évacuée, et notamment de ces Occidentaux, décident volontairement de rester à Nankin pour protéger les civils. Et ils vont organiser, sur l'exemple de ce qui s'est passé à Shanghai, lors de la bataille de Shanghai, avait été créée une zone de sécurité pour protéger ces mêmes civils, mais elle avait un caractère reconnu et international. Cette zone internationale de Nankin est décrétée par ces Occidentaux, mais en réalité, elle n'a aucun caractère officiel, et ni les Japonais, ni même d'ailleurs les Chinois avant la bataille, ne se sentent tenus de respecter cette zone. Et effectivement, dans leur traque des soldats chinois qui se cachent dès les premiers jours de l'invasion japonaise parmi la population civile, eh bien cette zone va être, qui se voulait être un sanctuaire inviolable, va être violé à peu près tous les jours.
Devant des Occidentaux que personne, que les Japonais ne touchent pas, hein, ça ne peut pas question, mais qui vont être témoins donc d'atrocités, et des atrocités qui vont continuer, vous le rappelez Michael Prazan, pendant 6 semaines, sur des vieillards, sur des enfants et sur des femmes aussi. Écoutez, 2 témoignages très impressionnants qui sont tirés d'un documentaire que vous avez fait, Michael Prazan. Cha Chuchin, qui était une femme chinoise qui avait à l'époque 7 ans, et Wu Chenxi. Mais d'abord, Cha Chuchin.
Les Japonais ont tout de suite tué mon père. Ils ont battu ma mère à mort. Moi, mes grands-parents et mes 3 sœurs, on s'est cachés dans ma chambre. Mes grands-parents ont été tués. Je les revois gisant de chaque côté du lit. Les Japonais ont tiré du lit ma grande sœur. Ils l'ont appuyé contre la table et ont déchiré ses vêtements avec leurs baïonnettes. Quand ils violaient ma grande sœur, j'ai crié. Alors ils m'ont transpercé 3 fois avec leurs baïonnettes. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Je suis entrée dans une maison et j'ai vu une femme allongée sur une table. Elle était nue. Il y avait un bâton enfoncé dans son sexe. Au pied de la table, j'ai aperçu un enfant qui serrait un des pieds de la table. Ses yeux étaient écarquillés. Je pense que c'était sa mère. Qu'est-ce que cette mort? Comment ont-ils pu violer cette femme et la laisser comme ça devant son enfant?
C'est effrayant, ces témoignages, vous les connaissez bien, Michael Prazan, vous avez fait un documentaire dessus, on les voit aussi, ils sont dans votre livre, on voit même les photos qui accompagnent les récits que l'on entend. C'est absolument, mais c'est une sauvagerie incroyable. Comment l'expliquer de la part d'une armée qui a la réputation d'être disciplinée?
Alors, elle ne l'est pas, pour le moins. Personne n'arrive à la tenir. Et d'ailleurs, il est tout à fait significatif que la police militaire japonaise n'entre à Nankin qu'une semaine, 10 jours après. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est mis en œuvre pour, évidemment, protéger les civils, mais aussi pour tenir cette armée qui est complètement débridée. Et on sent bien que même l'ambassade du Japon à Nankin est totalement dépassée et ne peut rien faire.
Parce que vous parlez de 20 000 femmes qui auraient été violées comme ça à Nankin, c'est absolument épouvantable.
Il n'y a pas un jour qui passe sans que les bataillons japonais organisent des rafles de jeunes femmes. Soit ils leur rendent visite, et c'est le témoignage de Cha Chuchin notamment, dans les maisons, et ils tuent tout le monde après une fois les viols effectués. Soit ils organisent des rafles tous les jours en fin de journée, et puis ils se servent effectivement de ces femmes comme des caprices, comme des objets sexuels.
Ce qu'on appelait les femmes de réconfort, ouais.
Alors, disons que le système des femmes de réconfort est né de là. Il préexistait déjà. Il y avait déjà des espèces de bordels itinérants qui existaient, qui n'étaient pas encore vraiment itinérants, mais qui existaient notamment à Shanghai, et il y en avait aussi à Nankin. Mais c'est parce que le Japon a pris conscience de l'importance des viols qui avaient été commis là-bas qu'il s'est dit que bon, il faut que tout ça soit organisé.
Mais est-ce que ces Japonais, ces soldats japonais, agissaient sur ordre? Ou est-ce que le commandement était défaillant? Ou est-ce que le commandement n'encourageait pas, justement, ces actes de pillage également, ces crimes, ces viols?
Alors, sur les viols, il n'y a pas d'ordre. Mais, vous l'avez dit, le commandement est défaillant. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle laisse faire. Elle laisse faire et...
Mais dans d'autres cas, il ne laissait pas faire.
Dans d'autres cas, il laissait moins faire. Je crois qu'il y a une désorganisation, si vous voulez, originelle de la prise de Nankin qui explique aussi cela.
Il y a quelque chose qu'on a entendu dans l'extrait des actualités japonaises et où les actualités disent « les régiments veulent être les premiers à entrer dans Nankin ». Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cet encouragement pour des soldats qui étaient peut-être un peu démotivés? On leur dit « ça va, vous avez tout ce qu'il vous faut ». Enfin, c'est un peu comme le principe des armées barbares d'autrefois, du Moyen-Âge ou d'Antiquité.
Ils avaient subi une bataille terrible à Shanghai. On a laissé faire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas les moyens de les rationner, de les approvisionner en nourriture. Et donc, ils ont été autorisés à se servir chez l'habitant, si on peut dire. Et se servir, c'est se servir en nourriture, mais c'est aussi se servir du point de vue de leur sexualité. Cela a été su par l'état-major présent à Nankin. Ils s'en sont un peu effrayés ou émus à certains moments, mais enfin, ils ont laissé faire. Et puis, ils ont aussi laissé faire parce que, il faut dire les choses, il y a un certain nombre de hauts responsables militaires présents à Nankin qui ont fait exactement la même chose. Et donc, leur exemple a encouragé la soldatesque à se comporter de la même manière. Et donc, il y a eu interaction, si vous voulez, dans la violence et dans la barbarie faite aux femmes à ce moment-là.
Un événement important que vous mentionnez aussi, Michael Prasant, c'est que le général Matsui doit quitter la région de Nankin assez vite parce qu'il est malade et il est remplacé par un membre de la famille impériale. Et ça, ça a beaucoup compté. Il s'appelait Asaka.
Oui, c'est le prince Asaka donc, qui vient... quelques jours avant la prise de Nankin, remplacer, dans les fêtes en tout cas, le commandement de Matsui, qui est tombé malade à cause de la tuberculose dont il était atteint. Et du fait qu'il appartenait à la famille impériale, c'était l'oncle de l'empereur en personne, eh bien, il y a eu une sorte de raidissement, si vous voulez, des autorités japonaises et militaires sur place, qui a voulu absolument éviter tout attentat contre sa personne. Et donc, on a concentré, si vous voulez, la sécurité autour de lui, en négligeant tout à fait, et certainement sciemment, la sécurité des personnes.
Ça a duré 6 semaines, ces massacres. Qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête brusquement ?
C'est en très grande partie grâce à l'initiative du révérend John McGee, l'un de ces fameux occidentaux présents à Nankin et qui est délibérément resté pour protéger les civils, qui, à l'aide d'une petite caméra qu'il avait sur lui, a filmé un certain nombre d'atrocités. Ces atrocités, ce film, a pu être rapporté clandestinement par un autre Américain présent sur place qui en a fait des copies. Et l'une de ces copies s'est retrouvée entre les mains du magazine Time, qui en publie en 1938 les clichés. Ça, véritablement, provoque un choc dans l'opinion mondiale. Et le Japon est évidemment obligé de se justifier. Et là, véritablement, il y a la fin des massacres et est mis sur pied un gouvernement de collaboration chinois qui va... Mais enfin, les viols se perpétuent encore quand même, mais avec moindre ampleur.
Alors ce révérend Magui qui va témoigner justement à ce tribunal international, 11 ans plus tard, enfin qui commence en tout cas en 1946, c'est-à-dire 9 ans plus tard, mais qui a duré très longtemps, tribunal international devant, qui était l'équivalent du tribunal de Nuremberg pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en Europe, et qui va condamner justement le général Matsui le 12 novembre 1948.
The International Military Tribunal for the Far East is now resumed.
In accordance with Article 15H of the Charter,
en accord avec l'article 15.8 de la Charte, le Tribunal Militaire International de l'Extrême-Orient va maintenant prononcer la sentence.
Accused Matsui Iwani.
Accusé Matsui, vous êtes déclaré coupable et condamné à la mort par pendaison.
Et c'était le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, l'équivalent du tribunal de Nuremberg pour l'Asie, qui condamne Matsui. On a beaucoup critiqué ce tribunal, Michael Prasant.
Bon, Matsui aussi est un personnage intéressant. Il a une responsabilité accablante dans ce qui s'est passé
à Nankin. Il n'était pas là, il n'était plus là pendant...
Mais voilà, il a une responsabilité sur toute la marche vers la capitale. Après, il n'est pas vraiment présent. C'est l'un des rares, c'est un bouddhiste pratiquant et très austère. Ouais. Il nourrit une culpabilité après sur ce qui s'est passé et même pendant... Bon, en même temps, lorsqu'il témoigne devant le tribunal, il se défend extraordinairement mal, il est confus, plein de contradictions, il ment, enfin bon, ça le dessert considérablement. Mais enfin, la responsabilité la plus accablante, c'est certainement celle du prince Asaka dont on a parlé,
il
et qui n'est même pas appelé à comparaître, parce que les alliés, et pas seulement les Américains, il faut faire attention là-dessus, ne souhaitent pas faire comparaître Hirohito, qui est certainement le premier responsable aujourd'hui, c'est certainement assez clair pour beaucoup, mais Asaka aussi. Et donc, aucun membre de la famille impériale n'est appelé à comparaître. Et c'est ce qui fait qu'on a dit que ces jugements étaient manipulés, etc. C'est partiellement vrai. Il faut quand même reconnaître aussi que sur tous ces points-là et sur un certain nombre d'autres responsabilités, le tribunal a largement fait son travail.
Alors, cette affaire, les Chinois qui en ont été les victimes en ont relativement peu parlé après la guerre, pendant toute la période de Mao. Et c'est maintenant qu'elle ressurgit parce que les Chinois, très attentifs à ce qui est dit dans les écoles japonaises, constatent qu'il y a révisionnisme de la part des Japonais qui, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, minimisent ce qui s'est passé, considèrent que c'est des actes d'initiative individuelle et donc refusent la responsabilité collective. Et il y a surtout un événement important, c'est que au temple de Yasukuni, où se trouve la mémoire de tous les combattants japonais, on trouve Matsui. Donc cette polémique est très dure encore aujourd'hui, 70 ans après.
Ça reste tout de même une pierre d'achoppement considérable dans les relations entre les deux pays. Alors vous avez dit effectivement, durant l'ère Mao, on n'en parle pas. Mao ne se sentait pas comptable de ce qui s'était passé sous la présidence de Chiang Kai-shek. Il voyait ce massacre comme une humiliation et il a dit à plusieurs reprises qu'au fond, il était relativement redevable à cette armée japonaise d'avoir fait le boulot, c'est-à-dire d'avoir décimé l'armée de Chiang Kai-shek qui lui a ensuite, à lui, permis la victoire sur le plan national chinois. Donc, ceci explique cela. La mémoire chinoise s'est réveillée du fait, effectivement, dans les années 80, des premières saillies révisionnistes et négationnistes au Japon. Et puis, il y a eu une espèce d'interaction mémorielle entre ces deux pays. Mais sur le dos de l'histoire, encore une fois, parce que les deux pays utilisent, au fond, cet argument pour des raisons politiques et géostratégiques qui n'ont que peu à voir avec la mémoire douloureuse de la Chine, qui est ressentie comme telle en Chine, d'ailleurs.
Merci, Michael Prasant. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant, très impressionnant, le texte aussi bien que les photos qu'on y trouve, « Le massacre de Nankin, entre mémoire, oubli et négation », un livre publié chez De Noël. Vous avez également réalisé un documentaire sur le même sujet, « Nankin, la mémoire et l'oubli », on a entendu justement deux extraits, édité en DVD aux éditions Les Poissons Volants et qui sera notamment diffusé sur la chaîne Planète à plusieurs reprises, dont samedi 15 décembre à 2h35 du matin et jeudi 20 décembre à 23h10. Vous avez également pu entendre l'extrait d'un autre documentaire, Le sac de Nankin, de Serge Viallet, diffusé sur Arte le 28 novembre dernier, ainsi qu'une archive pâtée de 1937, éditée en DVD aux éditions Montparnasse dans la collection Le journal de votre année. À lire aussi le magazine L'Histoire, qui consacre ce mois-ci un dossier au massacre de Nankin. Je signale enfin à Michael Prasant que vous serez demain, vendredi 14 décembre, présent au colloque Nankin, traces de guerre 1937-2007, où votre film sera projeté à 9h45, un colloque qui se tiendra toute la journée en présence de nombreux historiens à l'Université de Paris 1, 12 places du Panthéon, salle numéro 1, c'est la Sorbonne tout simplement.
Exactement.
Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Arnaud Caillé et Mathias Alléon, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillery, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, la rediffusion de la semaine, une histoire du sel.